La Bible en 24 heures, septième heure. Nous allons ce soir essayer de voir Samuel, roi et chronique, des livres doubles. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci de l'avoir préservée jusqu'à nous, Seigneur. Merci de nous permettre de l'avoir en notre possession. Avoir entre nos mains, aide-nous à la connaître, à la lire, à la respecter, surtout à la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci parce que nous savons que c'est ta parole, Seigneur. Amen. Donc, les fondements de cette étude, c'est qu'en fait, les 66 livres de la Bible qui ont été écrits par près de 40 personnes qui ne se connaissaient pas sur une période de près de 1500 ans, sur trois continents, en trois langues, forment en fait un système intégré de messages. Et on a expliqué qu'en fait on pouvait pratiquement démontrer que l'origine de ce message intégré, il venait en dehors du temps et de l'espace, notamment par les prophéties qui sont annoncées, qui sont pour certaines réalisées, qui sont en cours de réalisation pour d'autres et qui peuvent avoir une réalisation future ultime. Mais nous avons bien précisé qu'il y a un seul thème central de tous ces livres, ces 66 livres qui composent la Bible. Et quel est ce thème central ou ce personnage central à votre avis ? Jésus-Christ. Le Créateur s'est fait homme. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une nation qui va amener jusqu'à lui. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de cet homme, Jésus, Dieu créateur, fils de Dieu le Père, qui entre dans sa création. Et cette incarnation, en fait, c'est l'événement central de toute l'histoire. C'est intéressant que nous sommes en 2008, et ça fait référence justement à l'arrivée de Jésus, même si on pense qu'il y a un décalage de quelques années avec la date historique de sa naissance. Et cet homme, Dieu et homme à la fois, est venu mourir pour nous, venu mourir pour nous racheter, et il est vivant aujourd'hui. Et la plus belle expérience, le plus grand privilège que nous avons, c'est qu'on peut le connaître. Et ça, c'est le message de la Bible qu'on veut communiquer à ceux qui nous entourent et qui n'ont aucune idée de cette richesse incroyable. La période que l'on va couvrir, on va voir l'arrivée de la monarchie, avec l'ascension au pouvoir du roi Saül, puis celle de David, puis celle de Salomon, son fils, jusqu'à arriver à la division du royaume, entre un fils de Salomon et un autre homme, qui va conduire à l'exil du peuple élu par Dieu, du peuple juif. 1 et 2 Samuel parle du grand prophète Samuel, qui fait le lien, lui, entre la période des juges et la période des rois, c'est-à-dire la période de la monarchie. Vous vous souvenez qu'à l'époque des juges, ça avait terminé avec une phrase un peu terrible. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun ne se préoccupait pas de son voisin ni de ce que pensait Dieu. Mais si c'était bien, on le faisait. Une période des juges, on a vu qu'elle était tragique. Et par bien des égards, elle ressemble un peu à notre époque où les hommes ont, pour la plus grande part, rejeté Dieu, son autorité dans leur vie, dans nos vies, dans nos états. Et où, finalement, si on ne fait pas du tort aux autres, on est libre de faire ce que bon nous semble. Si on veut vivre avec un homme et être marié avec lui, de plus en plus, c'est possible. Si on veut élever des enfants en couple de lesbiennes, couple d'homosexuels, de gays, ça va devenir possible. Et ça, c'est intéressant justement de connaître l'histoire biblique, parce que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes provoquant souvent les mêmes effets. Mais une chose est sûre, c'est que l'histoire nous montre que l'homme n'apprend pas l'histoire. Ou il ne tire pas les conséquences de l'histoire. Donc on peut se retrouver dans des situations terribles, alors qu'on aurait pu les éviter si on avait pris en compte les événements du passé qui ressemblaient à ces événements. 1 et 2 rois vont couvrir les premiers 40 années du règne de David, et la transition avec le roi Salomon qui va lui succéder, la guerre civile qui va diviser le royaume en deux parties, puis qui va conduire à l'exil. Le royaume du nord va être emmené en captivité par l'Assyrie, le royaume du sud va être emmené en captivité par Babylone. 1 et 2 Chroniques, c'est un peu comme une répétition de toute cette histoire. C'est d'ailleurs intéressant, quand on étudie l'un, d'aller voir les passages parallèles dans l'autre. On retrouve donc le même genre d'événement, avec une différence, c'est que l'accent dans 1 et 2 Chroniques est mis sur le royaume du sud, le royaume de Juda, parce que c'est lui qui va continuer et arriver jusqu'à Jésus-Christ. Une des constantes qu'on a vues dans l'histoire biblique, notamment dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a l'Esprit-Saint se concentre sur l'histoire qui va conduire à Jésus. Donc s'il y a des branches de la famille ou des tribus qui au départ sont dans le mouvement, mais si elles s'écartent de Dieu, si elles ne sont pas choisies par Dieu pour continuer, on n'en parle plus beaucoup. Et on a dit comme ça que Chronique, c'était l'histoire vue par Dieu, de la même période que l'histoire vue par les rois. La division du royaume en deux parties va créer le royaume du Nord, avec comme capitale Samarie, qui va tomber dans l'idolâtrie, qui va s'appeler la maison d'Israël. Il va y avoir le ministère d'un prophète qui s'appelle Osée. Mais ce royaume, les membres de ce royaume, la population ne va pas se repentir, ne va pas changer, et ils vont être détruits par l'empire d'Assyrie, et ils ne s'en remettront jamais vraiment. Le royaume du sud, lui, va continuer un peu plus longtemps. Ils vont avoir quelques bons rois, mais eux aussi vont finir en exil à Babylone, pour une période bien définie de 70 ans, que l'on appelle de ce nom l'exil. Élie, le prophète Élie, va prophétiser pendant la fin de la période de un roi, et son successeur, Élisée, va prophétiser pendant le début de deux rois, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. D'abord, 1 Samuel. On a dit que Samuel, c'était le dernier des juges. Il parle de son enfance, de son appel. Vous vous souvenez, il était élevé par Élie, le prêtre. Et à un moment, il y a cet épisode où il est appelé par le Seigneur, et il va voir Élie pensant que c'est lui qui vient de l'appeler. Et rapidement, Élie, le sacrificateur, réalise que c'est l'Éternel qui lui parle. Et il va installer la royauté en la personne de Saül, qui au départ semble promis à, un brillant avenir. Mais rapidement, on va voir qu'il avait des graves carences de caractère, qu'il va tomber dans la folie. Il va tomber aussi dans le péché en désobéissant à Dieu. Il va avoir une fin tragique au combat, qui va laisser la place à David. David qui va être oint par Samuel, justement, et pourchassé pour une grande partie de sa vie par le roi Saül. Et Samuel, c'est un... Probablement le premier de l'ordre des prophètes. Il va commencer l'école des prophètes. À cette époque, la principale menace pour Israël vient des Philistins, qui vont opprimer Israël pendant 40 ans. Et les seuls succès qu'Israël va remporter, c'est seulement des victoires tactiques. C'est temporaire, c'est pas quelque chose de définitif. Je vous invite à tourner les pages avec moi. Dans 1 Samuel 4, il y a l'épisode intéressant où l'arche de l'Alliance est perdue aux mains des Philistins. Et on voit que, en lisant l'histoire, que les Philistins n'en retirent que des ennuis. Ils ont un roi Dagon qui n'est pas de taille contre l'Éternel Dieu, qui était dans le tabernacle, dont la présence était au-dessus de cette arche de l'Alliance. Et ils vont avoir des maladies, ils vont essayer de faire des sculptures ou des représentations, des souris et même des hémorroïdes, apparemment, qui étaient causées par la présence de cette arche dans leur proximité. Et à part l'aspect un peu amusant de ces ennuis que la présence de l'arche leur donne, on voit aussi que Dieu est capable de se défendre tout seul, même si Israël, qui avait la responsabilité de cette arche, n'est pas là pour les empêcher la saisie par un peuple ennemi. Dieu est capable de se défendre et de faire savoir qui il est à ses adversaires. Et ça peut des fois nous rappeler que si on n'est pas fidèle dans le service de Dieu, Dieu trouvera quelqu'un d'autre où il s'affirmera lui-même. Et vous vous souvenez que c'est le peuple qui avait demandé à Samuel de leur donner un roi. Ils voulaient faire comme les autres. Ils voyaient qu'autour d'eux, les gens étaient régis. Il y avait un système politique où c'était un roi qui gouvernait. Et ils voulaient eux aussi avoir leur roi comme tout le monde. Ça aussi, c'est un danger pour nous lorsqu'on veut des choses qui ne sont peut-être pas selon la volonté de Dieu, mais parce qu'on voit que tout le monde autour de nous le fait et on insiste même des fois auprès de Dieu. Et Dieu peut nous donner ce que nous lui demandons avec énergie, instamment, pour nous faire réaliser qu'en fait c'est lui qui avait raison. Dieu n'était pas pris au dépourvu. Dans le Deutéronome 17-14, à la fin du Pentateuque, Dieu avait dit au peuple, « Lorsque tu seras entré dans le pays de Dieu que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, « Je vais établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Donc Dieu savait que le peuple allait demander un roi et il était prêt à leur donner un roi, mais en rappelant que ce roi ne devrait pas accumuler les chevaux, les femmes et l'argent et l'or. Autrement dit, on en reparlera, mais le roi ne devait pas chercher la puissance, ni les femmes, ni la richesse. C'est d'autant plus triste que lorsque il demande ce roi, comme toutes les autres nations, ils oublient qu'en fait, lorsque Dieu guidait leur nation, c'était comme une théocratie, c'est Dieu qui dirigeait par l'intermédiaire des juges qui cherchaient à connaître sa volonté. Il leur avait donné de grandes victoires, c'est lui qui se battait pour eux. Et lorsque Samuel voit le peuple qui lui demande de nommer un roi, Dieu lui dit « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. » Ça aussi, c'est un principe. Souvent, on a l'impression, lorsqu'on parle de la Bible, ou lorsqu'on veut témoigner par directement ou par nos attitudes, que les gens nous rejettent, qu'ils nous mettent un peu à l'écart, qu'ils nous traitent un peu comme si on était trop différent d'eux pour qu'ils puissent avoir des rapports avec nous. Il est bon de se rappeler que c'est pas moi qui suis rejeté, c'est Dieu que je représente qui est rejeté. Et je suis un peu, comme qui dirait, une victime collatérale. Mais ça peut aider des fois de se dire que c'est pas moi qu'ils attaquent. Une autre chose, bien sûr, c'est de savoir dans Éphésiens 6, 10, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les principautés dans les lieux célestes, contre les forces des ténèbres. C'est Satan, en fin de compte, qui combat, contre qui nous combattons, Satan et tous ses sbires, tous ses démons. En même temps, lui peut utiliser le monde, le système de valeurs qui rejette Dieu, et utiliser notre faiblesse, notre vieille nature, notre chair, qui elle est sensible au monde, qui lui est dirigée par l'ennemi, le prince de ce monde. Encore une fois, David va arriver sur la scène avec l'épisode de Goliath, ce géant qui combattait comme un professionnel. On pense qu'il était peut-être un de ces vestiges, de ces expériences génétique entre guillemets de Satan avec avec des anges qui auraient eu des enfants avec des femmes humaines. On en avait déjà parlé. David qui refuse l'armure que le roi Saül veut lui donner car il a confiance que Dieu va lui donner la victoire contre cet impie, cet homme qui se moque de Dieu, qui insulte le Dieu éternel. Il avait seulement sa fronde et combien de pierres? Combien? 5? Oui, bravo. Il y en avait une pour Goliath et les autres c'était pour qui? Peut-être parce qu'il pensait rater une ou deux fois ou trois. En fait, c'est pas district spécifiquement, mais Goliath avait 4 frères. Et dans 2 Samuel 21, c'est d'autres serviteurs de David qui vont finir la famille de Goliath. David devient un très proche ami de Jonathan, le fils du roi Saül. Il y a une très belle amitié entre les deux. Saül, qui était un homme au physique remarquable, avait eu des débuts prometteurs, mais il n'avait pas obéi à Dieu. Il n'avait pas attendu Samuel à Gilgal. Il avait pris en main la tâche d'utiliser des pains de proposition, une tâche qui était réservée aux prêtres. Il n'avait pas détruit non plus le peuple des descendants d'Amalek, les Amalécites. Il avait épargné leur roi Agag, il avait épargné leur bétail en se disant qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Et le roi, le prophète Samuel lui avait dit, mais qu'est-ce que j'entends derrière toi, ces bêlements d'agneau en fait. Et il avait essayé de trouver une excuse qu'il avait, il n'allait pas gâcher de la si belle marchandise, du beau bétail comme ça. Donc il voulait l'offrir à Dieu, mais ça c'était sa deuxième grand péché. Et puis il a même consulté une sorcière, la sorcière d'Endor, alors que c'était complètement interdit dans le Deutéronome d'avoir des recours à l'astrologie, d'avoir recours à la voyance, tout ce qui est horoscope, tarot, c'est quelque chose que le chrétien doit éviter pour son bien. Il apparaît qu'il y a Samuel qui lui apparaît à travers cette rencontre avec la sorcière, et elle lui promet sa mort le lendemain. Et donc une triste histoire, quelqu'un qui avait bien commencé mais qui n'a pas su bien terminer. De Samuel, ça décrit surtout la carrière de David, la conquête de Jérusalem auprès des Jébusites par David. Il déplace la capitale qui était à Hébron, pas loin de Jérusalem, à Jérusalem même. Il a été roi de Juda à Hébron, puis roi de tout Israël à Jérusalem pendant 13 ans. Il a malheureusement commis un grave péché, un péché à plusieurs volets, en commettant l'adultère avec Bathsheba, ou Bethsabée, suivant certaines vieilles traductions. Et il a... Vous vous souvenez donc de cet épisode où il a vu cette jeune femme qui se baignait nue devant la terrasse de son palais. Il l'a fait venir chez lui. Et là, ils ont eu des relations qui ont conduit à la naissance d'un enfant. Il a essayé de cacher son péché en faisant revenir le mari de cette femme, Uri, le Hittite, qui lui a donné une leçon de fidélité. Lui, il était au combat et il a refusé de rentrer dormir chez lui avec sa femme. David a même essayé de le saouler pour le forcer à le faire, mais cet homme avait une grande probité morale et il ne voulait pas avoir la joie de passer du temps avec sa femme alors qu'il savait que ses compagnons d'armes étaient au combat. Et là, David le renvoie se faire tuer. En fait, il ajoute à l'adultère, à l'hypocrisie, il ajoute maintenant le meurtre en envoyant une lettre portée par ce même Uri pour son chef militaire Joab, qui va lui demander de le placer en tête du combat. Et une grande tâche sur l'histoire de cet homme. Pourtant, Dieu l'avait présenté en disant qu'il s'était cherché un homme selon son cœur et que l'Éternel l'avait établi conducteur de son peuple. Ça, c'est dans 1 Samuel 13, 14, lorsque Samuel annonce que Dieu va le remplacer par une autre personne. Ça, c'est prophétique. Et on a le témoignage du Nouveau Testament. Encore une fois, la Bible est le meilleur commentaire sur elle-même. Dans Actes 13, 22, on vous dit des fois que David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est bon de savoir où c'est que c'est dit. Et donc c'est dit dans 1 Samuel 13, 14 et dans Actes 13, 22. C'est un de ces passages qui relate à l'intérieur de la Bible l'histoire du peuple de Dieu. Et donc c'est Paul qui explique que après avoir l'avoir écarté, parlant de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, cette confiance que Dieu avait en David, et même après son grand péché, ses péchés combinés, il lui rend ce témoignage que c'est un homme selon son cœur. On a étudié il n'y a pas très longtemps la vie de David et de Samuel. Et on a vu en fait que c'était intéressant de voir que David était un homme selon le cœur de Dieu, parce que s'il péchait, il avait encore toujours une rapidité assez plus ou moins grande. Au départ, ce n'était pas très rapide, mais à confesser son péché et à se repentir, à demander pardon à Dieu. Et là aussi, on apprend que Dieu peut pardonner, mais que les conséquences du péché restent sur la famille de David. Dieu pardonne le péché, mais ça ne veut pas dire qu'il évite les conséquences de nos péchés. Un passage important, c'est 2 Samuel 7, versets 11 à 16. 2 Samuel, 7, verset 11. Comme à l'époque, c'est Dieu qui parle à David, qui lui dit il parle en fait au prophète Nathan, ce prophète qui a conduit David à confesser son péché, et lui dit: tu parleras ainsi à mon serviteur David, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Il y a aussi dans le psaume 89, vous regardez dans le psaume 89, c'est un psaume qui est écrit par un dénommé Étan. Il est question d'un roi. Et là, il rapporte des propos de l'Éternel. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Verset 21 ou 20. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, c'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. 28, verset 28. Moi je ferai de lui mon Dieu et le. 27. Lui il m'invoquera en disant: tu es mon père, mon Dieu et le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre, je lui conserverai toujours ma bienveillance. Et mon alliance avec lui sera ferme, je rendrai sa descendance perpétuelle et son trône aussi durable que les jours des cieux. Et verset 34, mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui, je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité, je ne profanerai pas mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa descendance subsistera à toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il sera établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nue et fidèle. Promesse donc d'un trône qui va être établi pour toujours. Et là, bien sûr, on sait que historiquement, le trône de David aujourd'hui il n'existe pas. Mais ce trône, c'est prophétiquement le trône du fils de David, de Jésus, qui va revenir, qui va régner sur terre. On peut penser qu'il y aura un trône en Israël pendant 1000 ans. Et après, ce trône continuera, Christ va continuer de régner. Et c'est donc un privilège inouï qu'a reçu David, d'avoir cette promesse davidique, on parle de l'alliance davidique, qui n'est pas basée sur des conditions. Dieu déclare et il va assurer cette prophétie. Et on peut être sûr qu'un jour le trône va être rétabli sur terre. Dans Matthieu 1, Jésus est dénommé le fils de David. Dans l'Apocalypse 5:5, il est appelé le rejeton de David. Donc cet honneur qui est fait à David d'être ainsi dans la lignée de Jésus, fils de David. Il a remporté, c'était un grand gouverneur, un grand homme d'État, David, un grand militaire. À l'apogée de sa carrière, il avait mis au pas les Philistins à l'ouest, au nord les Syriens, et à l'est, les Ammonites et les Moabites étaient subjugués, et au sud, les Édomites et les Amalécites étaient conquis. Il avait aussi des grands talents d'administrateur, c'est lui qui a organisé la prêtrise en 24 classes, et puis on sait que c'était un grand poète, l'auteur de bon nombre des psaumes, ces psaumes qui ont béni l'humanité, surtout le peuple de Dieu, les chrétiens, mais même les autres peuvent apprécier la poésie. Et c'est un merveilleux livre d'encouragement, de consolation. On voit comment, le mardi matin, on lit quelques psaumes, un ou deux psaumes avant de prier. On est toujours frappé de voir comment souvent David ou d'autres, mais David en particulier vient à Dieu dans sa peur, dans ses craintes, dans sa déprime, et il se rappelle ce que Dieu a fait déjà pour lui, la puissance de Dieu, et à la fin du psaume il est tout requinqué, il sait que Dieu est souverain, qu'il y a la victoire en lui. Et ces psaumes qui ont été écrits par cet homme qui était sujet à des sautes d'humeur, quoi, ils nous font du bien parce que nous aussi, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on doute, on peut se tourner, lire les psaumes et trouver des raisons de cesser d'être déprimé et de se rappeler qu'on est du côté du Dieu qui va gagner, du Dieu qui est puissant, du Dieu qui nous aime. Un bon conseil, lorsque ça ne va pas, prenez le livre des psaumes et lisez jusqu'à ce que Dieu vous parle. Parce qu'à tout coup, Dieu va, par les sentiments qui vont être exprimés, vous allez vous reconnaître dans les descriptions des états d'âme de David, des fils de Corée et d'autres qui ont contribué à ce recueil magnifique des psaumes. Il a, bien sûr, eu ce problème en commettant l'adultère. Une chose intéressante, c'est que ce n'était pas un incident. On a souvent l'image de ce pauvre David qui est seul, qui a bien travaillé dans la guerre, qui se repose un peu et qui, par hasard, voit cette jolie femme qui suscite en lui de la convoitise. Et on se dit, c'est un peu sa faute à elle, elle aurait pu quand même mettre un rideau ou être plus discrète. En fait, il est intéressant, on l'avait noté, c'est que David probablement connaissait déjà Bathsheba très bien, ou il savait qui elle était, parce que c'était la petite fille de son conseiller Ahithophel. Ahithophel avait un fils, Éliam, et dans le texte, Samuel, on s'aperçoit que Bathsheba, c'était la fille d'Éliam. Donc c'était la petite fille de ce conseiller Ahithophel qui au départ avait beaucoup aidé David, mais qui par la suite va encourager Absalom dans sa révolte contre son père. C'est lui qui va conseiller à Absalom d'humilier publiquement son père en faisant l'amour avec les concubines de son père sur le toit du palais. Et donc on voit que cette haine était motivée par ce que David avait fait à sa fille qu'il n'avait pas respectée. Mais c'est intéressant de savoir qu'il avait sans doute, il se connaissait, il s'était déjà vu, et il avait sans doute pris le temps de penser à ce péché qu'il commettait déjà dans son cœur. La Bible nous dit de ne pas donner place à la chair, de ne pas planifier le péché. C'est une chose déjà que de tomber dans le péché lorsqu'on est soumis à une tentation soudaine et quelque chose, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est lorsqu'on se met en place, on se met en route pour savoir comment on pourra arriver à nos fins, pour commettre le péché qui touche tous ceux qui nous entourent lorsque ce péché est commis. Vous vous souvenez que Nathan avait dit, suite à la confession de David, qu'il était pardonné. On avait dit même l'expression que le pardon interrompait la confession. Dieu était prêt à pardonner dès qu'il sentait que la personne était prête à se repentir et à confesser, à admettre que ce qu'elle a fait était quelque chose qui avait fait du mal à Dieu et aux autres. Mais là, le prophète Nathan lui avait dit que ton péché est pardonné, mais l'épée demeurera sur ta maison. Les conséquences de ce terrible péché ont été avec David pour le reste de sa vie. Vous vous souvenez de l'histoire tragique de sa famille. Amnon, un de ses fils qui a violé sa demi-sœur Tamar, le frère direct de Tamar, Absalom, qui a tué Amnon, et puis qui va diriger une rébellion contre David avec le conseil du grand-père de Bathsheba. Il va y avoir Adonijah qui va se battre contre Salomon pour prendre la tête du trône. Donc une histoire vraiment tragique. David voudra construire un temple à Dieu qui va lui dire « Non, tu es un homme de guerre, tes mains sont couvertes de sang, mais ton fils le fera. » David va préparer cette construction en amassant des matériaux, de l'argent. Et c'est son fils, le deuxième enfant qu'il a eu avec Bathsheba, le premier était décédé, vous vous souvenez, mais le deuxième, lui, va monter sur le trône. Donc ça, c'est dans l'épisode de Un Roi. On voit que il va accéder au trône, et qu'il va bâtir le temple à Jérusalem. Ça va être l'apogée de la puissance d'Israël pour l'instant. Dans l'histoire, jamais Israël n'aura été aussi puissante, aussi en paix avec ses voisins, aussi étendue géographiquement. Même si c'est l'apogée de l'extension géographique et d'influence, c'est pas aussi complet que Dieu l'avait le souhaité, l'avait prévu pour les Juifs. Mais ce qui va provoquer le déclin de Salomon, c'est qu'il va se détourner de Dieu. Et là, il va faire exactement ce qu'on a lu dans Deutéronome, ce que Dieu disait de ne pas faire dans Deutéronome. Ne pas multiplier les chevaux. On a encore trouvé aujourd'hui des ruines, des restes archéologiques, des écuries du roi Salomon. Apparemment, il y avait beaucoup de chevaux. À l'époque, c'était la puissance militaire. Aujourd'hui, on parle en termes de sous-marins nucléaires ou de porte-avions. À l'époque, c'était des chevaux et des chariots. Pas multiplier les femmes. Il n'y avait que 300 qui étaient officiellement mariés et il avait 700 concubines. Alors, on pense qu'il devait être épuisé, ce pauvre homme, mais en fait, il faut savoir aussi qu'à l'époque, on se mariait pour établir des alliances avec des suzerains, des rois, des personnages importants. Donc c'était une façon d'avoir la paix avec les voisins, c'était de prendre la fille du roi et de dire qu'elle venait dans le harem du grand roi Salomon. C'était pas très sympa sans doute pour la pauvre fille. Mais 300 plus 700, ça fait 1000, ça commence à faire beaucoup. On peut dire qu'il a vraiment éclaté le précepte de Dieu. Et puis l'argent, et, il a eu beaucoup d'argent et d'or. Il a après s'être débarrassé de son demi-frère Adonija et des anciens compagnons de David, Joab, le grand militaire de Shimnei, un personnage qui à un moment insultait David, il va affermir sa royauté. Et il va entreprendre la construction du temple. On voit dans 1 Chronique, encore une fois un passage parallèle, dans 1 Chronique 28, 11 et 12 et 19, que c'est un plan qui est donné à David par l'Esprit de Dieu. On a souvent l'idée que le temple, c'est simplement un agrandissement du tabernacle. Mais c'était pas tout à fait exact. On retrouvait des éléments du tabernacle, dont on va parler dans un instant. Mais il y avait aussi des éléments qui étaient tout à fait particuliers au temple lui-même. Donc dans 1 Chronique 28, David 28, 11, page 435, au début de la Bible. David donna à son fils Salomon le plan du vestibule et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des salles intérieures et de la pièce du propitiatoire. Ça, c'était le couvercle, donc c'était la pièce où se trouvait l'arche de l'Alliance. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison d'Éternel et toutes les chambres de l'enceinte pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Et puis, le plus loin, au verset 19... c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Et puis il encourage son fils Salomon, verset 20, fortifie-toi, prends courage et agis, sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et après ça, il parle de l'établissement des classes de sacrificateurs. Mais un énorme projet. On pense qu'il y avait près de 180 000 ouvriers qui ont travaillé à la construction de ce temple. 3 000 superviseurs. Et la plupart des quantités sont multipliées par deux en ce qui concerne la construction du tabernacle. Il y a des choses en plus. Il y a un porche avec deux énormes piliers de bronze qui ne supportent rien. Ils ont même un prénom ou un nom, ces piliers, quand on lit dans les chroniques. À droite, il y a un pilier qui s'appelle Yakin, qui veut dire il affermit ou selon son conseil. Et à gauche, il y avait un pilier qui avait le même nom que le rédempteur du livre de Ruth, Boaz, haut de 18 coudées, fait à peu près 8-9 mètres, qui veut dire « en lui la force ». Il y avait aussi des salles donc, de réserve personnelle pour les prêtres, qui étaient accessibles de l'extérieur. Certains voient là peut-être des idoles, des endroits où on peut avoir des idoles dans notre inconscient, dans notre conscience, parce qu'il y a une analogie assez forte entre l'homme et le tabernacle ou le temple. On en avait parlé. Cette fois dans la Bible, il dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Ne savez-vous pas, disait Paul dans 1 Corinthiens 3:16, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Acte 17, 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes, mais il habite en nous. Encore une fois, le temple, ce n'est qu'une l'ombre des choses à venir, mais en même temps, il y a une... Donc, on peut penser que dans les cieux, il y aura des lieux qui ressembleront au temple, au tabernacle et au temple. Mais on avait évoqué déjà l'analogie entre le parvis, qui est à l'interface entre le tabernacle et le monde. Ce parvis, c'est comme notre corps physique. Et puis, ce qu'on appelle le saint lieu, c'est le domaine, on pourrait comparer ça au domaine de la volonté, des émotions qu'on appelle l'âme. Et puis, le saint des saints, qui nous permet d'être en relation avec Dieu lui-même, avec son esprit, c'est notre esprit. Et donc, cette analogie très, très intéressante à envisager. On a dit qu'en fait la Bible, elle revendiquait et nous revendiquons pour elle ce qu'on appelle l'inhérence, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'erreur. Et parmi les événements, les éléments qui sont décrits dans la construction du temple, il y a ce qu'on appelle la mer de fonte. C'était un grand lavoir qui avait près de 5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, près de 15 mètres de circonférence, une forme ronde, près de 2,50 mètres de hauteur. Donc une grande quantité d'eau où les prêtres qui offraient les sacrifices venaient se laver, faire leurs ablutions rituelles, avant de pouvoir présenter les animaux en sacrifice, les holocaustes et tous les autres sacrifices. Et il y a un passage qui a souvent été utilisé par les détracteurs de la Bible, dans 1 Roi 7, 23. Page 350. Alors, on peut passer à côté de ce passage, ou alors on peut essayer de voir ce que disent les détracteurs. Il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordeau de 30 coudées. Voilà, donc on peut passer ça. Mais il y a des gens qui disent, attendez, vous dites que la Bible, il n'y a pas d'erreur, mais là, il est question, on ne va pas parler de coudées, on va parler de mètres, par exemple, que de bord à bord, il y avait 10 coudées, 10 mètres, c'était une forme parfaitement ronde, et que la circonférence était mesurée par un cordeau de 30 coudées. Est-ce que, même si vous n'êtes pas des mathématiciens ou des mathématiciennes, vous rappelez quel est le rapport entre la circonférence du cercle et le diamètre du cercle? C'est quoi? C'est le fameux nombre pi. Rappelez le petit nombre pi, qui est un nombre très intéressant parce qu'il n'est pas fini. Il est 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Il y a même des moyens mnémoniques pour essayer de se rappeler le nombre, les premiers chiffres. Que j'aime à faire ce nombre, que j'aime à faire connaître ce nombre utile aux sages, Archimède en son temps, habile ingénieur, et ça nous comptait le nombre de lettres. Que c'est 3, G, 1, M, 4, faire connaître, peu importe. Les gens disent c'était pas trop, c'était, si le diamètre c'est 10, la circonférence c'est pas 30 mètres. C'est pas 30 coudées s'il y a 10 de coudées, parce que c'est 10 multiplié par 3, 14. Alors on peut dire qu'il y en a qui pinaillent, mais c'est intéressant d'aller voir vraiment ce que dit le texte. Alors certains ont essayé de trouver une explication en disant peut-être qu'en fait l'épaisseur de la bordure était peut-être de 10 ou 15 cm, donc en fait quand d'un bord à l'autre ça faisait bien 10 mètres, mais la circonférence était un peu plus réduite, donc ça faisait que 30 mètres. Et certains sont allés voir le texte hébreu qui est en notre possession, le texte masorétique qui a été confirmé par les découvertes de Qumran dans les années 1950. Et dans ce texte, il y a un mot qui est utilisé pour parler du cordeau qui mesure la circonférence. Quand il s'est traduit dans notre texte par circonférence, le mot c'est, normalement, c'est le mot kav en hébreu, avec trois lettres. On va dire que c'est un Q, un A, un Q et un V. Il n'y a pas de voyelles en hébreu. Elles n'étaient pas écrites, sauf sous les lettres par les mazorètes pour qu'on garde la prononciation. Et dans le texte, en fait, c'est pas le mot kav, Q et V, c'est le mot Q, V et la lettre H, KV. Et donc, ils ont pensé qu'il y avait une erreur, les mazorètes, mais ils ont trop de respect pour le texte biblique qu'ils recopient. Et il copie le mot « kavé » comme il est écrit, en disant dans la marge, ça devrait être normalement « kav »,« q » et « v », et non pas « q », « v » et « h ». Mais dans la Bible, dans le texte original, celui qui a été transmis à partir de l'original, il y a les lettres « q », « v » et « h ». Il faut savoir aussi qu'en hébreu, à l'époque, il n'y avait pas de chiffres arabes. On utilisait, comme pour les Grecs, des lettres de l'alphabet. On leur attribuait une valeur numérique. Et la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est la lettre Aleph. Après, c'est Bet, Gimel, etc. Donc, chaque chiffre, chaque lettre a une valeur numérique. Et quand on regarde la valeur numérique du mot KV, qui était la façon habituelle d'écrire la circonférence, le mot Q en kaf en hébreu, ça a une valeur de 100 et l'autre a une valeur de 6. Donc, comme on a l'habitude de l'écrire, la valeur c'est 106. La valeur du mot qui est écrit dans le texte masorétique avec le H que les copieurs recopient en disant c'est pas normal, en fait c'est QVH, ça fait une valeur de 111. Donc au lieu de donner la valeur de 106, d'écrire les lettres qui auraient donné la valeur de 106, la Bible a écrit la valeur de ce qui donne la valeur de 111. Et là, puisqu'on parle de chiffres pour la lettre pi, le rapport entre le diamètre et la circonférence, on se dit c'est intéressant de voir quelle est la valeur de 111 divisé par 106. Au lieu d'être 111, d'être 106, c'est 111. Pourquoi ? Alors, c'est pas une réponse absolue, mais si vous multipliez 30 par 111 sur 3, qui est le rapport la valeur impliquée là, par le diamètre de 30, un diamètre de 10 pour une longueur de 30, si on fait 3 multiplié par 111 divisé par 106, on trouve 3, 14, 15, 0, 9. Voilà. Alors, si on aime les chiffres, on est tout excité. Si on aime moins les chiffres, on est moins excité. Mais c'est encore une fois, nous montrer que les gens qui critiquent la Bible, en fait, la Bible peut se défendre toute seule. Et là, alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne réponse, c'est peut-être pas la seule explication. Peut-être qu'il y a une explication plus triviale, peut-être que c'était général. Mais n'ayez pas honte, n'essayez pas de défendre la Bible. Dites, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est peut-être contraire à ce qui paraît scientifique. Mais la Bible finit toujours par avoir raison. Ça, c'est un petit exemple pour ceux qui aiment les maths. Passons. Salomon a écrit 3000 proverbes, les psaumes, le cantique des cantiques, l'ecclésiaste. Et à la fin, ce sont les femmes étrangères qui l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Il a construit des temples pour les dieux Astarté, le dieu Kémosh. Je ne vois pas pourquoi on loue un dieu qui est moche. Milcom sur le mont du temple, donc il a cédé pour ne pas s'aliéner ses 1000 femmes. Et il a ajouté à l'adoration de Dieu l'idolâtrie. Il n'a pas dit Dieu, le Dieu d'Israël n'est plus le vrai Dieu, mais il a laissé d'autres dieux intervenir. Et on sait qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, on ne peut pas servir plusieurs dieux à la fois. Ça aussi, ça peut être un avertissement pour nous. Est-ce qu'on adoration notre exclusivement pour Dieu, pour l'Éternel, ou est-ce qu'on laisse des petits dieux arriver dans notre vie, des choses qui prennent de notre temps, de notre énergie, de nos ressources, et qui finalement vont nous détourner de l'adoration du vrai Dieu? Ça peut être des choses au départ qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais si elles prennent la première place dans notre vie, elles deviennent des idoles. Et dans 1 Roi 12, on voit le schisme, la division de l'État après la mort de Salomon. Il y a Roboam, qui était le fils de Salomon. Et puis il y a eu un dénommé Jéroboam qui était un fils d'un serviteur de Salomon, fils de Nébat. Et ils vont se battre. Disons que le fils de Salomon ne va pas entendre le conseil des anciens. Le peuple était taxé pour la construction du temple. Et il se plaignait. Il lui avait dit dans 1 Roi 12, 4, « Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi maintenant allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Mais Roboam, contre l'avis des anciens de son père, décide de suivre le conseil de ses amis. Et dans 1 Roi 12, 10, il leur dit, « Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui adressèrent la parole en disant, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant. » Et toi, allège-le-nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Une façon de dire que je vais vous faire souffrir encore plus que mon père ne vous a fait souffrir. Ça conduit à une révolte et une division du royaume. Dieu va parler à Roboam, le fils de David, par l'intermédiaire d'un prophète Shemaïa. Suite à la division, ainsi parle l'Éternel, vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas vos frères les Israélites, donc le royaume du Nord, car chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que vient cet événement, cette division, c'est montre la souveraineté de Dieu, et ils obéirent à la parole de l'Éternel et s'en retournèrent, 1 Roi 12, 24, pour se conformer à la parole de l'Éternel. On voit donc cette triste division. C'est un peu compliqué lorsqu'on lit le livre des rois, parce qu'on suit à la fois les rois du royaume du sud, donc de Jérusalem, de Juda, et du royaume du nord, Israël, dont la capitale était Samarie. Et on voit les deux dans le livre des chroniques. On insiste essentiellement sur le royaume de Juda, et en ce sens, c'est un peu plus facile. Il faut parler de Élie, le grand prophète, dans 1 Roi, on parle beaucoup de lui, c'est aussi un prophète dont le Nouveau Testament parle beaucoup, on parle plus de lui qu'aucun autre prophète dans le Nouveau Testament. Il a accompli 8 grands miracles, notamment dans son combat contre Achab et sa femme Jézabel. Et vous vous souvenez de l'épisode d'Élie au mont Horeb, où il avait mis au défi les prophètes d'Astarté et des faux dieux de Jézabel et d'Achab et du royaume d'Israël. Il les avait mis au défi et c'est lui qui avait remporté une grande victoire. Il avait, vous vous souvenez, rassemblé ce bûcher et ce bœuf, ce taureau. Il avait demandé aux prophètes des autres dieux de faire tomber d'Astarté et l'autre c'était Mammon, non, c'était notre grand dieu. Un roi 18. De Baal, bien sûr, les prophètes de Baal et d'Astarté, et il les avait mis au défi de faire brûler l'offrande sur le bûcher. Ils se moquaient de leur dieu qui peut-être était parti, peut-être n'entendait pas, peut-être faisait la sieste, peut-être était parti aux toilettes. C'est ce que veut dire certains de ces passages. Et finalement, malgré toute leur simagrée, ils n'arrivent pas à faire descendre le feu sur l'autel. Et Élie, lui, rajoute de la difficulté, il inonde le bûcher et il invoque l'Éternel et « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres dans la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Donc il fait saisir les prophètes. Après, il y a un épisode où, malgré cette grande victoire, il succombe à la dépression parce qu'il succombe à la peur. Dieu lui rappelle qu'il n'est pas seul, comme il aime à nous le rappeler aussi. Des fois, on pense qu'on est seul à croire en lui, à vouloir le glorifier. Il a toujours d'autres personnes pour le glorifier, et qui sont là aussi pour nous encourager si on est ouvert à savoir qu'on n'est pas les seuls. Le livre de Deux Rois commence avec le ministère d'Élisée, qui était un disciple d'Élie. Il avait demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Et en fait, si Élie a accompli 8 miracles, Élisée va en offrir 16, va en accomplir 16. Et le livre des Chroniques 1 et 2, c'est encore une fois le point de vue de l'histoire selon Dieu, en se concentrant sur le royaume du Sud. Les deux grandes dates dont il faut se souvenir, c'est 721 avant l'ère chrétienne, avant Christ. Le roi Sargon va emmener le royaume du Nord en exil en Assyrie. Et en 586 avant Jésus-Christ, c'est Juda qui va être emmené en captivité à Babylone pour y rester 70 ans. Il va y avoir, dans la période des rois, et qui est décrite dans les rois et les chroniques, quelques bons rois comme Ézéchias et Josias. Finalement, rien ne va empêcher l'éloignement et il va falloir que Dieu suscite des prophètes pour encourager son peuple, notamment le prophète Jérémie, et ils vont revenir d'exil. Et c'est ce que nous verrons, lui voulant, la semaine prochaine. Juste une précision, il n'y a pas eu de tribu perdue après, pendant cet exil. Il y a souvent des récits, on parle des tribus qui se sont égarées, qu'on ne peut plus retrouver. Non, Dieu reconnaît les siens. Il y a même un groupe qui s'appelait la 13e tribu, il n'y a pas longtemps dans la région, des jeunes qui voulaient se réclamer justement d'une nouveauté d'inspiration divine. On verra donc la semaine prochaine la suite de l'histoire de l'Ancien Testament en parlant de cette période de l'exil et des retours avec Esdras, Néhémie, Esther. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions sur au sujet de ce survol rapide ou des événements qu'on n'a pas couverts? Un des épisodes les plus remarquables d'Élisée, c'est lorsqu'il il dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur parce qu'ils sont entourés par des troupes ennemies. Et en fait, lorsque Dieu ouvre les yeux de son serviteur, il voit qu'il y a des... La montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et ça, c'est un bon rappel du combat spirituel. Il y a une réalité spirituelle qui nous échappe. Un peu comme lorsque on travaille sur un ordinateur, on peut voir taper du texte, et puis il y a des, suivant les logiciels, il y a des touches qui vous permettent de voir tout ce qui relie entre les différents caractères. Il y a des caractères de formatage qui apparaissent, et on est normalement ignorant de ces choses-là. Un peu de la même façon dans les choses spirituelles, autour de nous, on ne les voit pas parce que c'est pas en 3D, c'est une autre dimension. Il y a des choses qui se passent, il y a des combats, des forces qui essayent de vous distraire, des forces qui essayent de vous tenter, de vous distraire. Et cet épisode d'Élysée est un très bel épisode qui rappelle la réalité de ce combat et qui nous rassure que si nous sommes avec Dieu, il ne nous laisse pas tout seul. Il y a des forces avec nous, comme on le sait par les livres des prophètes ou le livre de Daniel. Voilà, d'autres des questions, c'est moi qui ai des questions et des réponses.
Est-ce que tu peux répéter le truc sur
la démonstration sur Pi 3.14?
Non, merci. C'est l'histoire de la relation ou l'analogie entre le temple et notre corps, les parties.
Alors, l'interface du temple avec l'extérieur, c'était le parvis, c'est le parvis qui faisait déjà une limite. Et après, il y a notre âme. Alors, des fois, on pense que l'âme et l'esprit, c'est la même chose, mais il y a des passages, notamment dans l'Intercédentiel, où il y a ces trois éléments. L'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le domaine de la volonté, le domaine des émotions. Puis l'esprit, c'est le domaine de la communication avec Dieu.
Donc, il y avait le parvis,
le lieu saint, qui correspond à l'âme. Le lieu saint, vous rappelez, c'est là qu'il y avait le chandelier à sept branches, la menorah, l'autel des parfums et la table des pains de proposition.
Et donc, le saint des saints.
C'est le saint des saints, c'était là que se trouvait l'arche de l'alliance couvert du couvercle, qu'on appelait le propitiatoire, où il y avait les deux anges qui se regardaient. Et ça, c'est l'esprit, c'est notre esprit. Et lorsque nous vivons, nous venons au monde, c'est pour ça que dans Jean 3, Jésus disait à Nicodème, vous devez naître de nouveau, vous devez naître de l'esprit. Quand nous venons, notre esprit est... Les gens autour de nous, ils ont une âme, ils ont des sentiments, des volontés, des idées, ils ont un corps, mais ils n'ont pas d'esprit. Ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu, il faut cette opération de l'Esprit Saint qui fait que ils vont naître de l'Esprit et être à même de pouvoir être en relation avec Dieu.